Alors, résumé de la parcha d'avant en ce qui nous concerne, Yosef est en prison. Il est en prison parce que Madame Potiphar avait voulu avoir des rapports avec lui et il s'est enfui. Alors elle a raconté qu'il avait essayé de la séduire, de la violer, je ne sais pas. Et alors son mari, il a mis Yosef en prison. J'aurais remarqué qu'il a mis en prison, dans la prison des princes. Donc c'est déjà un peu spécial, quoi. Un type qui essaie de violer la femme de son maître, un esclave qui essaie de violer la femme de son maître, en général, ce n'est même pas la prison qui l'encourt. Normalement, il le tue simplement. Là, il ne le met pas seulement en prison, mais il le met dans une prison où il n'a absolument aucune raison de se trouver, puisque c'est une prison pour les princes. Alors, bon. Et quand il avait interprété le rêve du panetier et de les chansons, et que le rêve de les chansons est un rêve positif, et qui s'est réalisé, Yosef a, semble-t-il, indûment, enfin, il s'est trompé, il a demandé à les chansons de se souvenir de lui et de dire un bon mot à Paro, pour lui, pour qu'il soit libéré, en disant, mais je suis là, j'ai rien fait, je suis un esclave hébreu, déjà, on m'a vendu ici, et même ici, je n'ai jamais rien fait de mal, pour me retrouver en prison. Alors, mais bien entendu, les chansons s'est empressé d'oublier. Il a mangé la commission, et voilà, on est là. Alors 2 ans ont passé, Yosef, il a pris 2 ans pour ça, 2 ans de rab. Alors, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'au bout de ces 2 ans, c'est-à-dire quand il est au bout de sa peine, il faut qu'il soit libéré, et il va être libéré de façon un peu particulière. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Paro rêve, et il fait 2 rêves consécutifs, sont très semblables, comme vous savez, le rêve des vaches grasses et des vaches maigres, et des épis gras et des épis maigres. Et tout le monde, alors il a des spécialistes de l'interprétation des rêves, bien sûr. Tout le monde lui donne des explications, mais il n'est pas satisfait des explications qui lui sont données. Et alors, n'étant pas satisfait, il se met certainement en colère et tout. Alors du coup, les chansons, il se dit, si jamais Paro apprend qu'il y a dans la prison quelqu'un qui pourrait interpréter ses rêves, et qui interprète visiblement bien les rêves, puisqu'il a interprété le mien et celui du panetier exactement comme ça s'est passé par la suite, si jamais il apprend que moi, je le savais, ça me coûtera la tête. Donc, il se dit, il vaut mieux que je parle maintenant. Il ne parle pas du tout pour Yosef, il parle pour sa peau. Et il dit à Paro, donc il va dire à Paro, voilà, avec nous, dans la prison, il y avait un Hébreu, c'était un esclave. Donc, il commence par le descendre complètement pour que... Et il a interprété comme il faut. Alors, on sort Yosef de son trou, là, parce que la prison, c'était un trou, un peu, et on l'amène devant Paro. Et comme c'est ce jour-là, c'est Rosh Hashanah. Et alors évidemment, il va pas, on ne l'amène pas devant Paro sans l'avoir préparé. Alors il le sort, on le lave, on le rase, on l'habille, on le déguise, etc. Et voilà, et on le pose devant Paro. Et alors, dans le Sheni, le Pasuk Tetvav, 41-15, Vayomer Paro el Yosef, Paro dit à Yosef, Chalom Chalamti, j'ai fait un rêve, ou Poter et Noto, est capable de l'interpréter. Vani Shamati Alecha, et moi j'ai entendu à ton sujet, j'ai entendu dire, Tishma Chalom Liftoroto, que tu es capable d'écouter un rêve et pour l'interpréter. Alors Yosef lui a dit tout de suite, Vayan Yosef et Paro, les morts, il lui a dit, Biladai, pas du tout, hein, c'est pas moi. Elohim Yahanet Shlom Paro. C'est Elohim qui va répondre. Ça veut dire, comme le Targum dit, Lomin Chuchmati. C'est pas par ma sagesse que je vais interpréter ton rêve. Mais le shlama de Paro, le shalom de Paro, le bien-être de Paro, en fait, c'est Hachem qui va le lui fortifier, qui va lui répondre sur ce plan-là. Il va t'apaiser. Alors, va d'abord Paro et Yosef. Alors, Paro parle à Yosef, encore une fois. Bachalomi, dans mon rêve, ineni omed al sfatayor. Voici, je me tiens sur le bord du Nil. C'est déjà pas vrai, n'est-ce pas? Il a changé. Dans son rêve, il ne se tient pas au bord du Nil. Où est-ce qu'il se tient? Il se tient au-dessus du Nil. Marqué. Au début. Premier verset de la paracha. Vaïm iket shnataim yamim, au bout de 2 ans, ou Pharo cholem, Pharo rêve, veine, et voici, omed al hayor. Il est debout sur, au-dessus du fleuve. Et il dit, ici, à Yosef, il lui raconte ce qu'il a raconté aux autres aussi d'ailleurs, je me tiens au bord du fleuve. Pourquoi il dit ça? Parce que, en réalité, le Yehor, il faut. Bon, vous êtes un peu jeune, mais. Avant la construction du barrage d'Assouan, le delta, il y avait le Nil, il fait un grand delta quand il se jette dans la Méditerranée. Et les crues du Nil faisaient que. Le Nil débordait complètement. Et donc, il amenait du limon, il fertilisait la terre. Il y avait les bras du delta du Nil, et la terre était complètement fertilisée par justement les sortes d'alluvions, enfin tout ce qui était transporté par les crues du Nil. C'était extrêmement. L'Égypte, elle vivait de ça. Alors, ils ont mis un barrage, alors il n'y a plus d'inondation du Nil, mais ils ont perdu cette richesse. Bon, c'est pas mon problème. Mais le Nil, dans toute l'histoire de l'Égypte, le Nil est une divinité, étant donné que c'est la divinité nourricière. Ils ont bien compris que s'ils ont à manger, c'est grâce au Nil. Si les choses poussent, c'est grâce au Nil. Donc le Nil est une divinité haut placée. Les pharaons sont aussi une divinité en Égypte. Mais a priori, le Nil est une divinité supérieure à la divinité Ra, qui s'appelait la divinité des pharaons. Mais lui, Paro, son problème, c'est, voilà, lui, il rêve d'être une divinité supérieure au Nil. En d'autres termes, s'il n'est pas une divinité supérieure au Nil, ça veut dire qu'il est simplement, quasiment, l'intendant de la divinité Nil. La divinité Nil donne à manger, et lui, il organise le ramassage et la distribution. Par contre, s'il est au-dessus du Nil, il n'a plus rien à voir, il domine. Mais bien entendu, il n'ose pas dire, parce qu'évidemment, ces gens qui interprètent les rêves sont des gens qui sont des pinailleurs, qui vont écouter chaque mot. Et s'il dit les choses telles qu'il les a rêvées, ils vont se dire, il veut être une divinité supérieure. Et probablement qu'il y a déjà tout un clergé autour de la divinité Nil qui n'a pas du tout l'intention de se laisser mettre de côté et qui veulent être la divinité, le clergé de la divinité dominante. Donc il n'ose pas le dire. Alors il dit « Je suis au bord du Nil ». C'est neutre. Et voici, dit-il, vous voyez, dans le verset de Yud-Zayin, c'est marqué « Hineini ». C'est-à-dire comme si « Hine ani », n'est-ce pas ?« Hine ». Et maintenant, dans notre verset, le Yud-Chet, « Vehine l'or ». Et au 19, « Vehine sheva parot acherot ». Après la même chose avec les épis, au 23. Vine sheva shibolim. Vine, c'est comme quelque chose qui fait irruption, qu'on ne s'attend pas du tout à trouver là. Quand c'est un homme qui dit inéni, comme Abraham Avinu, etc., ça veut dire voilà, je suis là et je suis prêt à tout. Tout ce que tu voudras, je le ferai. Ici, il dit, voilà, je suis là, brusquement, je me trouve, comme s'il n'y était pas allé, je suis au bord du fleuve. Et voici que du Nil monte sept vaches en bonne santé, briot bassar, grasse, vifot toar, qui avait de belles formes. Vatir en abahu. Elles se mettent à paître dans le marécage. Vehine, et tout à coup, une nouvelle chose. Sheva parot acherot, sept autres vaches. Olot achareen, elles montent après elles, après les premières. Mais elles sont dalot, elles sont maigres. Veraot toar, elles sont moches à voir. Meod. Toujours, meod, c'est toujours au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ve rakot bassar. Elles ont que la peau sur les os en français. Et il dit Lo raiti chaena choleres mitzraim la roa. Je n'ai pas vu de vache comparable à celle-là dans tout le pays d'Égypte. Elles sont moches. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà les. Normalement, les vaches, elles ne sont pas carnivores. Mais les vaches maigres vont avaler les vaches grasses. Et voilà, elles les avalent. Velonoda kibao el kirbena. Mais on ne voit pas du tout qu'elles ont été avalées par les vaches maigres. Les vaches maigres n'en sont pas plus grasses pour autant. Maréen ra kacher batrila. Et l'aspect des vaches maigres, après qu'elles aient avalé les grasses, ben il est comme avant. Vaikatz. Et je me suis réveillé. Et je me suis rendormi et j'ai rêvé. Et j'ai rêvé, veiné dans mon rêve, il y avait Sheva Shivolim, Olot, Kane Echad. Sur une tige, il y avait 7 épis. Meleot vetovot, des épis pleins, de beaux épis. Et puis après eux, après cela, ils sont venus des épis maigrichons. Il n'y avait rien, il n'y avait rien à manger, etc. Et les maigrichons ont avalé les gros épis, les épis gras. Sous-entendu, il ne s'est rien passé. Et il dit, « Va Omar, El Achartoumim. » Et je l'ai dit, je lui ai raconté mon rêve. Au Achartoumim, au magicien. « Vein Magidli. » Mais personne ne m'a dit quelque chose de satisfaisant. Voilà. Donc il a raconté son rêve. « Vayomer Yosef el Paro, chalom Paro et Chadou. » D'abord il dit à Paro, ton rêve, tu as rêvé deux fois, c'est vrai, mais c'est un seul rêve. C'est le même rêve, en fait. Alors, pourquoi il se répète? Alors, la théorie que j'utilise, l'interprétation des rêves, dit qu'un rêve qui se répète est à Shera Elohim Ose, il guide le paro. C'est pour mettre l'accent que Hachem annonce à paro ce qu'il va faire. Et il le lui raconte. Et il interprète. Les 7 vaches grasses, entendu, et les 7 épis gras, ce sont 7 cette année. Comme je t'ai dit, c'est un seul et même rêve. Et les vaches maigres et les épis maigres, c'est aussi une seule chose. Sont des années de famine. Voilà l'interprétation du rêve. L'interprétation du rêve, c'est Hachem t'informe, Paro, qu'il va y avoir 7 années d'abondance, suivie de 7 années de famine, et on verra, les années de famine vont enlever toute trace, effacer toute trace des années d'abondance. Ensuite, la répétition pour dire c'est que ça va venir rapidement. Normalement, Yosef, il aurait dû s'arrêter de parler, là. Parce qu'on lui a demandé d'interpréter le rêve, c'est ça, terminus. Et Yosef, ici, il a une chutzpah pas possible. Nous, on ne se rend peut-être pas compte, mais parler à Paro, sans qu'il vous ait dit de parler, normalement, tu finis pas ta phrase, t'es déjà mort. Or Yosef, il se lance dans une explication. Et il dit, et maintenant, Yéré Paro, que Paro voit, Ish Navon Vechacham, un homme intelligent, sage, Vishitehu al Eretz Mitzrayim, et il faut le mettre au-dessus du pays d'Égypte. Il y a assez Paro que Paro fasse, il lui donne des ordres, n'est-ce pas? Vous imaginez, un esclave qui sort de tôle, on l'a sorti pour qu'il donne des conseils, qu'il dise l'explication, et il se met à donner des etzot, quasiment des ordres à Paro. Voilà, il faut désigner des responsables, et il faut partager la terre en 5. Pendant les 7 années d'abondance. Et il faut, pendant ces années d'abondance, que toute la nourriture soit rassemblée dans les silos de Paro, dans les greniers de Paro. Et dans la nourriture pour les villes, et qu'on le garde précieusement. Et le texte dit ici, il faut faire comme ça, parce que vous aurez en garantie, en quelque sorte. La nourriture, elle sera en garantie chez Paro. Pour les années, pour être redistribuée dans les années de famine. Et de telle sorte que la terre ne soit pas complètement morte de faim. Vayita vadavar beine Paro. La chose a été jugée bonne par les yeux de Paro. Ou bien kol avadav, et aux yeux de tous ses serviteurs. Alors Paro a dit à ses serviteurs, Animsa chaze ish, asher ruach elokim bo. Est-ce qu'on trouvera un homme comme celui-là, inspiré par Elokim? Il faut savoir que, en faisant cela, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il répond aux souhaits non exprimés explicitement par Paro, puisqu'il lui dit, tu vas nommer quelqu'un qui va s'occuper de l'intendance. Donc ça ne sera plus toi. Toi, tu pourras te poser comme une divinité supérieure qui ne s'occupe pas de l'intendance. Qui est tellement élevé qu'il y a d'autres divinités ou d'autres personnes pour s'occuper de l'intendance. Et donc, avec cette explication-là, Paro va pouvoir devenir l'idole qu'il voulait être, la divinité qu'il voulait être. Il va être une divinité au-dessus du Nil. Au sens de l'intendance, elle suit. Donc il a donné un conseil qui est bien pour l'Égypte, un conseil qui est bon pour Paro, tel que Paro l'entend. Et d'une certaine manière, il a presque soufflé à Paro de le prendre lui comme intendant. Pourquoi? Parce que lui comme intendant, ça a un gros avantage. Imaginez qu'il ait pris un prince égyptien comme intendant. Ce prince égyptien, il l'aura toute la richesse de l'Égypte dans la main. Il sera le grand Manitou. C'est lui qui a la combinaison de tous les coffres de l'Égypte. Et on va voir par la suite que tous les Égyptiens, sauf le clergé, ils vont tous se vendre se vendre à Paro, se vendre à Yosef, donc c'était se vendre à Paro. Ils n'ont pas à manger. Donc ils vont quasiment tout devoir céder à Paro. Donc Paro, là, qui d'après ça, était une divinité relativement mineure, finalement, devient une divinité majeure, et il devient extrêmement riche. Il va devenir un vrai arabe, mais par le blé. Il y a quelque chose d'encore plus important, si on peut parler comme ça. Tout ça, c'est une mise en scène pour le moment où les Bnei Israël vont descendre en Égypte et Hachem va les prendre en charge et ils vont sortir d'Égypte. Imaginez que tous ces petits propriétaires terriens, chacun aura qui 3 esclaves, celui-là 20, celui-là 50, etc. Moshe Rabbeinu, quand il va falloir faire sortir tout le monde du Mitzray, il va falloir négocier avec chacun d'entre eux. Kadosh Baruch Hu, par ce biais-là, il est en train de faire de Paro le grand patron. Paro devient le grand patron de toute l'Égypte. Il devient le grand propriétaire et automatiquement, toute l'Égypte lui appartenant, les Bnei Israël, quand ils vont être esclaves, seront ses esclaves à lui. Et donc Paro, enfin, je vais l'envers, Moshe Rabbeinu aura, de ce fait, il aura un seul interlocuteur, Moshe Rabbeinu aura un seul interlocuteur, c'est Paro. Et donc le Kiddush Hashem, ce sera énorme. On verra, tous les Juifs sortent d'Égypte, tous ensemble. Et donc il y a une organisation en quelque sorte de l'Égypte qui se construit maintenant, qui se fait maintenant en vue de la sortie d'Égypte. Donc, il y a à la fois une solution, donc, une solution économique pour l'Égypte, une solution de kavod pour Paro, et une solution qui est la plus importante, qui est que Hachem met en place la sortie d'Égypte. On met en place la sortie d'Égypte avant même Israël commence à descendre en Égypte. Mais tout ce processus-là, c'est déjà la sortie d'Égypte, en fait. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. La sortie d'Égypte, elle commence maintenant. En fait, c'est écrit dans Chazal. C'est marqué que quand Yaakov a envoyé Yosef prend des nouvelles de ses frères. Vous vous souvenez, il l'a envoyé, il lui a dit, tu vas aller vers Khébron, la vallée de Khébron, Khazabiz, tout le monde sait bien que Khébron, c'est pas une vallée, c'est une montagne. Alors on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Emek Khébron, Yod, ça veut dire le omek, la profondeur de ce qui a été annoncé à celui qui est enterré à Hebron, à Avraham Avinu. C'est-à-dire l'annonce qui a été faite à Avraham Avinu. Yado ateda ki ger yizar haver Israël. La descendance sera esclave, étrangère, dans un pays qui ne sera pas le leur. Et on va les faire souffrir et tout. Ça a commencé à ce moment-là. Ça a commencé au moment où Yaakov envoie Yosef prendre des nouvelles de ses frères. Et comme tout le monde sait, en réalité, il l'envoie au Caspi. C'est intéressant. Parce qu'on voit aussi quelque chose qui a l'air d'être une constante du clan d'Israël. C'est que Yosef, il est condamné à mort. Donc, quand il est sorti de la mort, en quelque sorte, par la décision finale de Mabetsa, Yehuda qui dit on n'a rien à gagner à le tuer, on va le vendre. Donc, il a quasiment ressuscité. Et donc, la sortie d'Égypte, elle commence quasiment avec une résurrection. Elle commence par la résurrection de Yosef. Vous voyez, pour qu'il puisse aller, pour qu'il puisse arriver en Égypte, et que toute cette histoire puisse commencer. Donc c'est absolument fabuleux, je veux dire. Or, le clan d'Israël, sa constante en quelque sorte, c'est que le clan d'Israël, il est mort avant d'avoir existé, ou il est en galoute avant d'avoir été construit. On a commencé par être en galoute, n'est-ce pas? Donc là, Israël, il n'est même pas constitué, il est déjà en galoute en Égypte. Et le clan d'Israël, il commence avec Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, c'est quelqu'un qui croit, qui lui aussi, il a une certaine forme de résurrection. Nimrod l'a jeté dans la fournaise, dans la fournaise. Et il n'est pas mort. Normalement, quand on ressort d'une fournaise, c'est une résurrection. Donc il y a toujours cette idée que, on a l'impression que le clan d'Israël, il est d'une certaine manière après la mort. La mort, on connaît, on a déjà, on est après. On est presque déjà dans une triade intime. En fait, cette histoire de la mort, c'est très intéressant, je pense maintenant, mais avoir vu les sorties de la mort lors de la fournaise, Yitzhak a vu les sorties de la mort au monde de l'Akeda, et Yaakov a vu les sorties de la mort en se laissant dépouiller par Eliphaz, et ça voulait envoyer Eliphaz pour le tuer. Donc lui aussi, c'est une résurrection. Et lui aussi, il était exposé en plusieurs autres fois dans tout ce qui lui arrivait. Il a lu Frontenance, il voulait le tuer. Et Lavan, il est là, Gotakol, il voulait tout tuer tout le monde. Donc, il y a cette constante ici dans la constitution du clan d'Israël. Cette idée que on n'arrête pas de mourir dans le clan d'Israël et de ressusciter. La résurrection chez les bénis Israël, c'est un classique. On a expérimenté quasiment toutes les formes de résurrection. intéressant.
Moi, ça m'intéresse. Si vous intéresse, vous, c'est rien. Pardon ? Ça, c'est le monde entier, ça ne concerne pas Israël. Dans la Megillah, des fois, c'est marqué Hamel, c'est pas marqué Perro. Quand c'est marqué Ahashverosh, c'est sûr, c'est Ahashverosh. Quand c'est marqué seulement Hamel, alors il y a des fois où c'est, ça fait. Ça, il faut le lire si c'était Hachem. Mais ici, Perro, il n'est même pas présenté comme Hamel. Je veux dire, pas tout au long du récit, on ne répète pas Hamel, Perro. Oui. Ça rappelle quoi? Oui, non, mais ça. Non, mais lui, c'est son kavod, simplement au-dessus du Nil. Orachaim fait remarquer que quand Yosef lui dit le fait que tu fasses deux rêves, et il lui dit c'est un seul rêve. Alors l'Orachaim il dit sur la répétition, il dit Remez le shne dvarim à la kefel ve à la chinouï. Donc il fait partie, il veut dire ici c'est répétition double. Mais ce n'est pas la même chose exactement. Ce n'est pas qu'il a rêvé deux fois des vaches grasses et des vaches maigres. Parce qu'à ce moment-là, on aurait pu penser qu'il a été très fortement impressionné par le premier rêve et du coup, il l'a rêvé une deuxième fois. C'est pour ça que le chalom ici vient dans un autre ordre. Il y a Sheva Shibolim, Azebal et Lamed, Kinachon Adavar. Ça vient enseigner que ça va venir immédiatement. C'est pas ton imagination qui fait que tu as été impressionné, alors tu rêves encore une fois la même chose. C'est vraiment un message. Et maintenant que Paro voit un désigné, etc. Alors le Haïm dit Tam Yosef Shenase Yoetz le Melech veut l'obikesh mimen. Et la pitaron achalom. La raison pour laquelle Yosef tout à coup s'est déguisé en. Il est devenu conseiller privé de Paro. Alors que Paro lui a simplement demandé d'interpréter le rêve, comme je vous ai dit. Qui bat la tête l'otam, asher ere ou hachem, et asher ou osse. Qui ou kidesh et yafket pekidim. C'est-à-dire que, il vient dire à Paro, c'est pas une information qu'Hachem te donne, pour que tu le saches, c'est tout. Pas du tout. C'est pour que tu désignes des gens. Ça fait, c'est pas. Mais maintenant qu'on a l'information, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Il est en train de. Le Rachami veut dire que ça appartient à l'interprétation du rêve. C'est pas un conseil qui viendrait consécutif à l'interprétation du rêve. C'est dans l'interprétation. Ça vient lui expliquer quand les vaches maigres avalent les vaches grasses. Ça vient lui dire, écoute, pendant les années de famine, on devra vivre sur ce qu'on aura réussi à économiser lors des années d'abondance, ce qu'on aura réussi à conserver. Il dit, tu dois choisir Ish Navon Vechacham. C'est Bina et Chochma. La date, Ofan Otserot Atvoa. Le Bal Tirakev. Vezé Mehaïd Bonenout. Navon, ça veut dire quelqu'un qui va réfléchir et qui doit apprendre. Comment est-ce qu'on va conserver ce grain? On a du blé, mais c'est bien joli, mais si on ne sait pas le conserver pendant toutes ces années, jusqu'à les années de famine. Ensuite, il dit qu'il faut qu'il soit chacham. Il faut aussi, shiyodea, klalut ha-chokhma ladat, chokhmat ha-tishboret, va-andasa, va-mispar. Il faut que soit un ingénieur capable de construire les silos adéquats. Il faut qu'il soit capable de faire les calculs de répartition de la nourriture dans les différentes provinces. Quand il a dit on va partager l'Égypte en 5, et pourtant ce n'était pas la Tunisie, donc ce n'est pas pour cette raison-là qu'il a dit qu'on va le partager en 5. Pourquoi on dit Navon avant Chacham? Normalement, la Chochma, elle vient avant la Bina. Qui? Udavar ameakev yoter. Kedeshetit kayem atvoa. Parce que c'est quelque chose qui est plus nécessaire encore. Si on veut que le blé se conserve, il faut qu'il fasse une enquête, qu'il se documente, etc., et qu'ils sachent comment on conserve. Il va falloir conserver pour des années, n'est-ce pas? C'est une fabuleuse. Et alors, il dit, il y a assez paro, que paro fasse. Alors il dit, Kavanat advarim hem, ki iskil Yosef. Yosef a compris. Shetam achalom hu. La raison du rêve, c'est le tzad ki Hashem mevi, sheva shnesh sova. Il amène les 7 années d'abondance. Beshofa yoter. Al-Shar Hashanim, Kedesh et Tiyatvoa le Sheva Shneraav. Il faut qu'ils comprennent que ce sera des années d'abondance et pas des années où on aura à manger. Il va y avoir ces années-là une récolte qui doit être adéquate pour l'année en cours et pour dans l'année correspondante dans les 7 années. La première année, disons, correspondre. Première année dans l'abondance, il faut qu'on récolte pour la première année de famine. Et si il n'avait pas compris que la première année, il va y avoir du grain en abondance, alors la deuxième année, les gens vont... Bon, on a assez, hein, on a la première année, on avait eu suffisamment. Ils vont manger la deuxième année d'abondance sans travailler. Ils vont manger, ils ne vont pas vraiment produire la deuxième année. vous mangez sur la première année. Donc il faut comprendre que dans la première année, est incluse la première année de famine. Il faut que Paro prenne les choses en main pour empêcher qu'il y ait des négligences. Si Paro n'est pas un peu sur le terrain, il lui dit, si les gens vont, bah, comme toujours, ils vont être négligents. Bah, il va falloir qu'on sème tout ce qu'on va pouvoir semer là. Pour la deuxième année, pour qu'elle soit abondante, la troisième, quatrième, etc. Alors, il lui dit, tout doit être dans tes mains. Alors Paro dit, Anim tsakaze, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un comme celui-là? Anishkach kadin. Im nelech unvakshenu anim tsakamou. La question de Paro, c'est assez conseillé, c'est, dites, qu'est-ce que vous en pensez? Si on recherche quelqu'un comme qui satisfasse à toutes ces conditions, est-ce qu'on va le trouver? En navon vechacham kamocha. Le bakesh ish navon vechacham she'amarta lo nimsa kamocha. Quelqu'un qui soit comme tu l'as décrit. Tu t'es décrit toi-même, en fait. On ne trouvera personne. On va trouver quelqu'un qui pourra faire le travail de cette manière-là. Seulement, on voit très bien que Paro, il a compris quand même ce qu'il était en train de se jouer, parce qu'il lui dit « Ish asher ruach elokim bo » Le Rashbam dit « Asher ruach elokim bo pepitaron chalomot » Quelqu'un qui est inspiré comme toi, comme tu, dans l'interprétation des rêves. « Vekol shken ba'achanat derech eretz » Et à plus forte raison, tu sauras préparer les choses de ce monde pour faire face à la famine. Alors, voyons Mère Elohim, voyons Paroël, Yosef, je continue. אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זה, את כל זאת, פרדום. אין נבון וחכם כמוך. אחרי כאלוקים תפקונר תתוסה. לא יהיה פרסון כי שרה עושי נבון וחכם כתוע. אתה תהיה על ביתי. תשרה עושי מהמזון. זאת אומרת, אין לו נום לה, מתנו. Ve'alpicha, et sur ta bouche, ça veut dire, sur ton ordre, yishak kol ami. Yishak, c'est, Rashi dit, itzan v'itparnes. Kol tzorke ami iyu na'asim al yadcha. Ishak, c'est comme quand Abraham Avinu a dit ben meshek beti. Il a dit que Eliezer, qui est l'intendant de sa maison, celui qui est en charge du fonctionnement de la maison, Ishak Kolami, tout mon peuple fonctionnera sur ta parole. Rakakise Egdal Mimeka, seul le trône sera au-dessus de toi. Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire, le trône sera au-dessus de lui? Il n'y a que moi qu'on appellera Melech. Et voilà, maintenant, parole lui dit. Voyons ma parole, Yosef. Ré, vois. Natati otra al koler et mitzray. Rachid dit, natati otra. Maniti yatach, je t'ai nommé. Mais malgré tout, ça résonne sous la forme de je t'ai donné. Et Rachid fait référence à ou le titre Elion ben l'Igdoula ben le Chiflout. C'est-à-dire que Natati, ça veut dire je t'ai donné à cette situation. C'est pas simplement je t'ai nommé. Mais quelque part, je t'installe dans cette situation-là. Quelqu'un peut être nommé, mais il ne sera pas l'homme de la situation. Il ne va pas être homogène à la situation. Vayasar Paro et Tabato, mais Aliado. Paro lui a enlevé son sceau. On voit très bien, Megillat Esther est réminiscente de là, où Aman donne son sceau, où Achashverosh donne son sceau à Aman, puis ensuite à Mordechai. Ça veut dire, tu vas sceller avec le nom du roi. Ça veut dire que quand Yosef va sceller un papier, ce sera signé Paro et pas Yosef. Ce ne sera pas signé Yosef, intendant en chef, ce sera signé Paro. Vaiten Ota Aliad Yosef. Il l'a mis sur la main de Yosef. Ensuite, Vayalbesh Oto Bigdeshesh. Il lui a mis des vêtements d'apparat, en fait. Vayasem Rivida Zahab al Savaro. Il lui a mis le grand collier de la Légion d'honneur sur autour du cou. Ensuite, Kivoto Bemir Kevet à Mishne, à Sherlo. Donc il a installé Yosef dans le deuxième char, le deuxième deuxième voiture royale, en fait. C'était pas Air Force One, mais tout. Donc il circule dans la voiture numéro 2 de l'Égypte. Vaïkrou, le Fanab, et il y a des crieurs qui vont marcher devant lui ou courir devant lui, et on va crier Avrech. Alors, le Avrech, Rachid dit que Avrech, ketur tirgumo, din abba le malka. Celui-là, il est un père. Et ça, c'est Av. Et Rech, Rach, Belshon Arami, Rachid dit que en araméen, c'est Melech. Ça veut aussi dire roi, mais en araméen. C'est curieux. C'est-à-dire, Paro il dit, en égyptien, il n'y a que moi qu'on appellera un roi. Mais dans ton nom, il y a le fait que tu es roi. Mais en araméen. Il y a une dracha que vous connaissez probablement qui dit Drash Rabbi Yehuda Avrech ze Yosef. Pourquoi? Shu Av Bachochma Verach Bashanim. Il est un père au niveau de la sagesse, mais il est très jeune. Alors, Ben Dourmaskit lui a dit à Rabbi Yehuda, il lui a dit: dis-moi, ad matai ata me'avet aleinu et aktuvim? Jusqu'à quand tu vas tordre devant nous les versets? Ein avrech ela lashon brachim. Ça veut dire she'akol היו נכנסים לפניו ויוצאים תחת ידו כעניין שנאמר ונתון אותו. Je ne sais pas si ça veut dire berkaim ici, que les gens ils sortaient à genoux. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression que quand, d'après cette explication de Dourmaskit, de Ben Dourmaskit, on a l'impression que ce que criaient les gens, c'est devant lui, à genoux. Accepter la maroute de ce type. Accepter qu'il est roi. Tout le monde s'agenouille, Berkaï. Pardon? Non, pourquoi? Avrech, ça n'a rien à voir avec Arbeit. Non, mais lui, il pense, il ne faut pas entendre. Vous voyez comment ça fonctionne si tu... consiste à partager comme ça. Av et Rach. Alors on peut dire dire, ou bien que ça veut dire père, père du roi ou la nation, Erar, ça veut dire Melech en araméen, ou bien ça veut dire que c'est un père en Chochma, Erar, Bachanim. Bon. Mais le Domaskit, il dit, tu tords les versets comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut partager. Il faut partager comme ça. Et Berech, c'est le genou. C'est ce qu'on va dire ici, à genou. À genou. Si on dit comme ça, c'est une forme de louange. On annonce ici, voilà. Vive le roi. C'est pas très spécial. Tandis que si on dit comme ça, ça veut dire on dit aux gens donc à genoux. C'est-à-dire accepter son autorité. Ça veut dire acceptation. Acceptation. L'autorité.
C'est-à-dire qu'il y a le char qui passe.
On dit les gens, agenouillez-vous.
C'est pas les gens qui disent agenouillez-vous, agenouillez-vous.
Non, il y a les crieurs devant. Les gens qui...
Bah, il croit
le fanat. Avec. Crie devant lui, avec. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont devant, qui disent agenou. Tout le monde agenou. C'est comme ça qu'on... Quand le tsar passait, les gens s'agenouillaient. On n'avait même pas besoin de leur dire à genoux. Ces crétins, ils s'agenouillaient tout seuls. Le Sforno le dit explicitement. Le Sforno le dit, Klomar, Kol ish ichra al birkav. Moshayu tsoakim, ifne amenech. Lomar la'am, ki lo tichra kol berech. C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas compris que tout le monde doit s'agenouiller? Et donc il s'est baladé, semble-t-il, après ça, dans toute l'Égypte, et on a imposé à tout le monde d'accepter son autorité. Bien. Vayomer Paro et Yosef. Donc, Ani Paro, Uviladecha lo yarim ish et yado, vet raglo, vechol eretz Mitzrayim. Il a dit, je suis Paro. Mais, et je dis,
C'est-à-dire, Rashi dit, qu'est-ce qu'il dit quand il dit Ani Paro ? Il dit, Shiesh yecholet beyadi nixor gzera al malchuti. J'ai un pouvoir. J'ai le pouvoir de prendre des décrets sur mon royaume. Vani gozer, et je décrète que personne ne lèvera la main ou le pied dans tout ce pays sans toi. Sans que tu l'ordonnes. Vaikra paro shem Yosef. Et du coup, il lui a changé son nom. Il l'appelle Tzofnat Paaneach. Ibn Ezra, il fait remarquer qu'il ne lèvera pas le pied, c'est-à-dire interdiction de se déplacer dans le pays, sans l'autorisation de Yosef. Tzofnat Paneach, c'est le fameux Ibn Ezra qui dit « Im ze amila mitzrit, lo yadanu perusha » Si c'est un mot égyptien, bon, je ne sais pas ce qu'il veut dire. « Vimi meturgemet, lo yadanu shem Yosef » Et si c'est déjà une traduction du nom qu'il lui a donné, que la Torah a déjà traduit, et Tzofnat Paneach, alors on ne connaît pas le nom qu'il a donné à Yosef. Vi pirush Paneach, kasher tzergem am targem, aramit, vi mila merubaat. Bien. Vaïten lo et osnat bat potifera. Et il lui a donné, ben il l'a marié hein, tout de suite, osnat bat potifera, kohen on, leisha. Il lui a donné la fille de Potiphar, qui était un prêtre du dieu on, comme épouse. Vaïetse Yosef et l'Eretz Mitzrayim. Et Yosef est sorti, il a fait un tour d'Égypte. Potiphéra ou Potiphar. C'est le Potiphar qu'on connaît, chez lequel Yosef était employé. Venikra Potiphéra, Al-Shinistares Me'elav, le fils de Chaman et Yosef, le Mishkav Zachar. Potiphéra, para, c'est coupé en fait. Ça veut dire que le type, il s'est castré, parce qu'il avait un désir pour Yosef, homosexuel pour Yosef.
C'est bizarre ça.
Pourquoi c'est bizarre?
Parce que j'ai écrit un truc comme ça, mais il faut croire.
Faut juste... Oh, ben, le reste, t'as pas besoin de le croire non plus. Hein. C'est la même chose. Je t'explique pourquoi il s'appelait Potiphar jusqu'à maintenant, et maintenant tout à coup, il s'appelle Potiphéra. Et Peresh Ain, ou Para Rosh Aisha, ça veut dire on va découvrir la tête de la femme dans la sota, on va arracher quasiment la coiffure. Si, ben, arracher une partie. Pas du tout la même chose. Ouais, c'est écrit pas de la même manière.
Oui, mais ça ressemble. Il suffit de
prendre
Potter et Pharaoh et ça fait Potiphar. Il y a quelques lettres qui sont là, mais ça ressemble.
Potter et Potter, c'est un c'est avec tête et un c'est avec trave. Oui,
c'est,
toi ça te dérange pas.
C'est audio.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est juste.
Donc
quoi?
Ce qui est étrange, c'est pourquoi est-ce qu'il nous précise bien que Osnat, à chaque fois il nous précise qu'Osnat c'est la fille de Potiphar, Cohen du homme, mais nulle part ils ont cru bon d'écrire que ça serait bien de nous dire que c'était la fille d'Ina.
Ça c'est probablement, si ça se trouve lui-même il ne le savait pas, par où. Personne ne savait ce qui c'était. Mais nous, on le sait oral. Peut-être que ça ne doit pas figurer ici. Parce que justement, on décrit les choses telles qu'elles se sont passées à l'égyptienne, là, maintenant. À l'égyptienne, il lui a donné une femme qui était la fille d'un dignitaire.
J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un mariage comme ça dans la Torah, que les deux ils acceptent comme si ça allait de soi. Que voilà, Yosef il va accepter.
Tu t'imagines Yosef dire non à Paro, toi? On ne pouvait pas dire non à Paro. Ça existait, le mot non, il ne devait pas exister là-bas, dans la cour.
Il y a sa fille.
Quoi? C'est sa fille qui lui dit non. C'était sa fille. Donc, en fait, Tzofnat Paneach, Mefaresh Hatzfunot. Il est Mefaneach, c'est-à-dire il déchiffre. Tzofnat, Tzafun, les choses cachées. Ven le Faneach, Dimayon Bamikra. Et dit Rashi, mais le mot le Faneach, il n'a pas son semblant. Il n'a aucun mot qui lui ressemble dans le Patsouk, dans les Psoukim. Yosef ben 30 shana ve'omdo lifne paro. Melech Mitzrayim va'yetze lifne paro va'yavor b'chol eretz Mitzrayim. Il a 30 ans. Donc voilà, il est parti à 17 ans. Et maintenant, il a 30 ans. Il est parti un enfant de sa maison. Il a passé par tous les stades. Condamné à mort, jeté dans un trou, transporté en Égypte, vendu comme esclave, accusé de tentative de viol de sa maîtresse, emprisonné, sorti du trou, et tout à coup, il se retrouve vice-roi d'Égypte, avec une femme. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense qu'il y en a pas assez pour ce soir.